sœur. Voilà, c'est toujours une joie de nous retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu, pour écouter sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il s'agit bien de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons célébrer à travers l'écoute de sa parole. Je vous propose ce matin un message, merci Jean-Pierre, qui va aller dans la suite de ce que nous avons entendu le dimanche 18 juin. Vous vous souvenez, j'avais fait la promesse d'une suite au sujet d'un message concernant la volonté de Dieu. Le thème de ce message du dimanche 18 juin est pour titre « Est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Voilà, c'était basé sur l'Épître aux Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Et ensuite, le 25 juin, on a eu notre culte famille. Et ensuite, le 2 juillet, je suis allé dans une autre direction. Voilà, et donc j'avais promis revenir ce dimanche 9 juillet sur ce même passage de Romains 12, 1 et 2, et pour faire, comme on dit, suite et fin au sujet de la volonté de Dieu. Et donc le message de ce matin parlera de la volonté de Dieu. Et cette fois-ci, le titre, c'est « Comment connaître la volonté de Dieu ?» C'était « Est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Maintenant, « Comment connaître la volonté de Dieu ?» Donc je vous propose juste de faire cette lecture. Romains 12, 1 à 2, lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous nous tenons. Nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus ta présence. Et en tout cas, d'après la lecture de ta parole, des Écritures, personne n'est jamais venu dans ta présence et retourné tel qu'il est venu. Dans ta présence, nous l'avons d'ailleurs évoqué dimanche passé, beaucoup de choses peuvent se passer, et beaucoup de choses se passent dans ta présence en effet. Et c'est dans ta présence que nous sommes venus, nous voulons t'écouter. Jésus, parle-nous. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, nos esprits et nous rende réceptifs à ta parole. Bénis-nous à travers cette écoute. Bénis aussi nos enfants. Seigneur, permets que ta parole aussi trouve vraiment une bonne place dans leur cœur. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons entendu dans une des prières tout à l'heure, Seigneur, aide-nous dans nos choix. Aide-nous dans nos choix. Je commence ce message par une citation. Donc, j'ouvre les guillemets. Priez pour moi afin que je connaisse la volonté de Dieu. J'ai trois propositions d'embauche et je ne sais pas trop laquelle je suis censé d'accepter. Je ne veux surtout pas passer à côté de la volonté de Dieu en prenant un emploi que je ne suis pas censé occuper. J'aimerais que tu pries pour que le bon choix m'apparaisse très clairement et vite. Fin de citation. Frères et sœurs, celui qui présente de telles préoccupations, en tout cas, cherche à comprendre comment appliquer le principe de la grâce à ce qu'on appelle la prise de décision. comment appliquer le principe de la grâce à la prise de décision. En effet, quand la vie du chrétien est placée sous le régime de la grâce, en tout cas, sa manière de voir les choses change dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Il comprend peu à peu que chaque détail, mais vraiment chaque détail de sa vie découle de la relation qu'il a avec Dieu. Si nous sommes évidemment sous la grâce, cela veut dire que tout nous vient de Dieu. Tout est grâce. Tout nous vient de Dieu, mais vraiment tout est dans les moindres détails. Nous ne faisons que recevoir de sa part. Évidemment, collaborons avec le Saint-Esprit en lui faisant confiance à chaque instant. Cependant, ce n'est pas parce que nous marchons dans la grâce que nous sommes ou que nous devenons passifs à propos des aspects de la vie quotidienne. Au contraire, cela veut dire que nous agissons. Mais nous agissons avec confiance. Nous agissons avec confiance. La grâce nous pousse à agir avec confiance en nous appuyant sur l'assurance que c'est Dieu qui est à l'origine de toute chose. C'est lui le moteur, c'est lui le consommateur de son plan, de ses desseins pour nos vies. Une des plus grandes joies, mais en tout cas une des plus grandes joies de la vie, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est de savoir que l'on réalise, que l'on est en train de réaliser le dessein de Dieu pour lequel on a été créé, on a été placé sur la terre. Accomplir la volonté de Dieu, frères et sœurs, n'est donc pas un objectif vague, impossible à atteindre. En tant que chrétien, nous pouvons réellement faire l'expérience bénie de savoir que nous nous trouvons au centre du plan de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas d'abord le fait de chercher ce que je dois faire, mais il s'agit d'abord de savoir ce que je dois être. Qu'est-ce que je dois être ? En effet, quand on est en phase avec la volonté de Dieu, en tout cas, la plus grande joie, la plus grande bénédiction, pardon, est la joie d'être en harmonie avec Dieu lui-même. La volonté de Dieu, frères et sœurs, en fait, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est dans la mesure où Dieu ne fait rien sans le Fils. Dieu ne fait rien sans le Fils, que nous pouvons dire que la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et une fois qu'on a établi une juste relation avec lui, avec Jésus, vous voyez que faire la volonté de Dieu devient une conséquence. Une conséquence naturelle de notre union avec lui. Quand nous saisissons toute la signification profonde, toute la portée de notre union avec Jésus, il devient pour nous la volonté du Père, manifestant ainsi sa vie à travers nous, de telle sorte que, en tout cas, chaque détail de la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre façon de marcher au quotidien. Jésus est donc celui qui peut nous faire connaître et accomplir la volonté de Dieu. En dehors de lui, il est impossible d'avoir accès à la volonté du Père. L'apôtre Paul a dit ceci dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et il le fait selon son bon plaisir, c'est-à-dire selon sa volonté. Le Saint-Esprit qui habite en nous accomplit le plan du Père dans la mesure où nous sommes conscients à chaque instant d'être un avec Christ. Pour reprendre l'illustration de façon un peu plus détaillée, un peu plus littérale, Jésus n'est pas simplement le plan qui nous indique le chemin. Il est tout à la fois le conducteur, il est tout à la fois le véhicule, la voiture, et il est tout à la fois le chemin, l'autoroute. Il est donc tout pour nous, Jésus. Chercher à connaître la volonté de Dieu est un objectif saint, un objectif noble, mais à condition que l'on ait bien compris ce qui est en jeu, ce qui est en cause. Dans ce cas, mais vraiment seulement dans ce cas, cette recherche conduit le chrétien vers Jésus-Christ. Quand c'est la grâce qui préside à l'élaboration de nos décisions, de nos choix, c'est sur lui, c'est sur Jésus, et non sur un plan que se porte notre attention. Dans le régime de la grâce, je l'ai dit, l'homme reçoit. L'homme reçoit tout de Dieu. Ce n'est donc pas aux chrétiens de trouver la volonté de Dieu. C'est plutôt Dieu qui révèle à celui qui se confie en lui sa volonté. Celui qui a une relation intime avec Jésus la connaîtra, cette volonté, sans avoir des difficultés, en tout cas comme le texte dit, à la discerner, afin que vous discerniez. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, un modèle concernant la bonne attitude à avoir au sujet de la connaissance de la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Il s'agit de l'épisode où Paul et Barnabas ont été choisis par l'église d'Antioche. Comment cette église a-t-elle procédé pour discerner qui devrait être ses tout premiers missionnaires? Il n'est pas fait mention, en tout cas dans le texte, d'une réunion quelconque, de la commission d'évangélisation, au cours de laquelle réunion, les membres auraient estimé que l'Église devait lancer un programme missionnaire. Il n'est même pas question de ça. Comment ces chrétiens de l'Église d'Antioche ont-ils discerné la volonté de Dieu concernant qui allait devenir, en tout cas, le plus grand missionnaire de tous les temps? Écoutons ce qui est écrit dans Actes 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Il fait allusion de Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaëm qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et la liste s'arrête à Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié et imposé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Voyez, l'élément déterminant qui leur a permis de comprendre la volonté de Dieu est la révélation. La révélation, elle leur a été révélée pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, faites ceci. Ces chrétiens ne cherchaient pas simplement à connaître la volonté de Dieu. C'est Dieu qu'ils cherchaient. Et Dieu leur parla clairement en leur faisant connaître sa volonté. C'est donc en cherchant la personne de Dieu qu'ils ont découvert son plan, sa volonté, qu'il fallait ensuite accomplir. Une des leçons que l'on peut aussi tirer de ce passage, c'est que Dieu est tout à fait capable de parler pour être entendu. Tout à fait capable. Dieu est notre Père Céleste. Et c'est à lui, mais je dis bien que c'est à lui qu'il revient de faire en sorte que nous puissions l'entendre, que nous l'entendions quand il nous parle. Nous n'avons pas besoin de craindre, en quelque sorte, de passer à côté de la volonté de Dieu, mais parce que nous n'écoutions pas assez attentivement. Quand nous demeurons en Christ, quand nous demeurons en Christ, comme on l'a dit d'ailleurs au culte famille le 25 juin, au sujet de porter du fruit, Jean 15, quand nous demeurons en Christ, c'est lui qui assume la responsabilité de se faire entendre. C'est comme un père de famille. C'est lui qui doit faire entendre sa voix auprès des enfants. Mais en fait, que cherchons-nous au sujet de la volonté de Dieu? À quoi servirait-il à un chrétien, entre guillemets, à un chrétien de découvrir la volonté de Dieu pour sa vie alors qu'il n'a pas de relation intime avec Jésus? Alors qu'il ne connaît pas ce que c'est qu'être uni à Christ, à quoi il nous servirait de connaître la volonté de Dieu? Un tel chrétien, supposons qu'il découvre finalement la volonté de Dieu, mais il compte sur quoi? Il compte sur quoi exactement? Sur quelle puissance pour lui permettre d'accomplir justement cette volonté en dehors de Jésus? Voilà. Donc, même si nous savions quel chemin prendre, cela n'aurait aucun sens de chercher à faire la volonté de Dieu sans avoir une relation véritable, intime et de dépendance envers Jésus. Quand nous vivons dans une dépendance totale envers Dieu, donc en étant sous la grâce, sa volonté nous est révélée sans que nous puissions, je veux dire, perdre trop de temps. Mais parce qu'en fait, le but de Dieu, c'est de nous aider à gagner du temps. C'est ce que l'Esprit a dit, au fond, à l'église d'Antioche. Vous avez prié, cherché la face de Dieu, je vais vous faire gagner du temps. Si l'Esprit n'avait pas parlé, je serais continué à prier, à prier, à prier. Il fallait que l'Esprit, maintenant, se révèle et parle. Faire gagner du temps. Même si c'est à Dieu, je disais tout à l'heure, de révéler sa volonté, cela ne veut pas dire pour autant que le croyant n'a rien à faire à la démarche que Dieu utilise pour faire connaître sa volonté. Alors certes, le chrétien n'a pas à se démener, mais nous ne devons pas conclure à tort que nous devons rester passifs. La Bible, à partir de Romains, le texte que nous avons lu, Romains 12, versets 1 et 2, nous enseigne comment collaborer. Un peu dans la suite de ce qu'on a dit dimanche dernier, comment collaborer clairement avec Dieu de manière activée en quelque sorte la révélation de ses desseins pour nous. À partir de ce texte, l'apôtre Paul laisse entendre qu'il existe un moyen, qu'il existe déjà un moyen de discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas voués à nous promener pendant toute notre vie en nous demandant si nous sommes ou non dans le plan de Dieu. En coopérant avec le Saint-Esprit et en obéissant à la parole de Dieu, souvenez-vous des trois feux dont j'ai évoqué ce dimanche 18 juin. En coopérant avec le Saint-Esprit et en collaborant, en obéissant, pardon, je reprends, en coopérant avec le Saint-Esprit et en obéissant à la parole de Dieu, nous avons l'assurance de découvrir, de discerner sa volonté. Ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon l'apôtre Paul, la première réaction que nous devons avoir envers Dieu dans la recherche de sa volonté, c'est de nous offrir. De nous offrir à lui comme un sacrifice vivant et ensuite un sacrifice saint. N'importe quel juif savait très bien à quoi Paul faisait référence en employant cette expression, sacrifice vivant. Lorsqu'Abraham, souvenons-nous, a eu enfin un fils, le fils de la promesse, Isaac, Dieu lui demande d'amener son fils unique et de le lui offrir en sacrifice sur le mont Morija, d'après Genèse chapitre 22, 1 à 14, qui raconte comment Isaac a été amené jusqu'à la montagne, puis lié et placé sur l'autel afin d'être égorgé, mais par la main de son propre père. Alors, même si Isaac était
certainement épouvanté en réalisant quelle était l'intention de son père. Vous voyez, rien en tout cas dans le récit n'indique qu'il se soit démené pour s'opposer à Abraham. En plus, Abraham était un vieil homme, centenaire. Et Isaac, un jeune homme, plein de vitalité, plein de vigueur. Donc Isaac n'aurait eu aucun mal à avoir le dessus sur son père. Aucun mal. Néanmoins, il semble qu'Isaac se soit entièrement, mais vraiment totalement soumis à la volonté de son père, se laissant attacher et placer sur l'autel afin d'être sacrifié. C'est seulement au moment où un ange de l'Éternel arrête Abraham dans son geste qu'Isaac comprend qu'il ne serait finalement pas sacrifié. L'apôtre Paul explique que pour pouvoir discerner la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons devenir semblables à Isaac. Nous devons devenir semblables à Isaac. Nous devons nous abandonner. Nous abandonner totalement entre les mains de Dieu, nous soumettant à son dessein, quel qu'il soit, quel qu'il puisse être. Cet abandon total à Dieu constitue, d'après l'apôtre Paul, la première étape fondamentale à connaître, à discerner la volonté de Dieu. En nous offrant comme un sacrifice vivant, nous lâchons les rênes, nous lâchons les commandes, nous lâchons le volant de notre vie pour nous en remettre entièrement à Dieu. Il en découle donc une attitude de confiance inconditionnelle à son égard. Telle est notre manière, frères et sœurs, d'affirmer que nous sommes prêts à nous offrir à lui, à nous abandonner à lui, tout comme Isaac s'est abandonné à Abraham. Quand nous nous abandonnons totalement à Dieu, nous nous plaçons, frères et sœurs, en situation de voir se dérouler son plan divin d'une façon, mais vraiment d'une façon que nous n'aurions jamais imaginé. Vous faire passer par des étapes que vous n'avez jamais imaginées. Il va vous accorder des bénédictions auxquelles vous n'y avez jamais pensé. Évidemment, cela fait parfois peur de lâcher prise dans notre vie pour pouvoir expérimenter la vie de Dieu. Mais, Paul nous dit en quelque sorte, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen de connaître et d'accomplir sa volonté. Paul n'a pas parlé que de sacrifice vivant, mais aussi de sacrifice saint. Nous rendre saints, frères et sœurs, n'est pas de notre responsabilité. En faisant preuve d'une dévotion sans faille et en se soumettant en quelque sorte à un régime spirituel quelconque, non. Cependant, celui qui vit sous le régime de la grâce, celui-là est conscient de ne rien pouvoir faire pour se rendre saint à partir de ses propres efforts. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire puisque la sainteté dont il est question est un don offert aux chrétiens par la personne de Jésus-Christ. Tant que le croyant n'a pas compris qu'il a été rendu saint à travers notre union, à travers son union avec Jésus-Christ, il ne peut pas prendre plaisir à la volonté de Dieu, mais parce qu'il sera constamment centré sur lui-même, sur ses propres efforts. La même phrase nous exhorte à nous offrir comme un sacrifice à la fois vivant et saint. Et jamais, vous voyez, jamais vous n'entendrez dire que le chrétien doit s'efforcer d'être plus vivant quand il se présente à Dieu. Mais parce que nous savons tous que nous sommes déjà bien vivants. Malgré cela, bien des chrétiens croient qu'ils devraient être plus saints pour pouvoir se présenter à Dieu. Cependant, La vie d'un côté et la sainteté de l'autre ont la même origine, la même source. Jésus-Christ, il est notre vie, et il est notre sainteté. Nous n'avons pas à nous évertuer, à obtenir l'une ou l'autre, la vie ou la sainteté, mais simplement à croire ce que dit la parole de Dieu, que nous avons été rendus saints à travers l'œuvre de Christ à la croix et à recevoir ce qu'il nous a donné. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 à 31. Or, c'est par lui, c'est-à-dire c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, ben effectivement, se glorifie dans le Seigneur. Jésus est devenu notre justice par conséquent, pour obéir à l'exhortation qu'il nous a faite de nous offrir comme un sacrifice saint, il nous suffit de reconnaître que nous sommes en lui quand nous abandonnons au Père. Nous sommes en Jésus. Dès lors que le chrétien a pris conscience qu'il possède la nature divine, la nature de Jésus, et donc sa justice, la justice de Jésus, il est en mesure de recevoir la révélation de la volonté de Dieu pour lui, sans être perturbé par l'idée qu'il doit d'abord devenir meilleur, avant de pouvoir s'abandonner totalement à Dieu. Une fois que le chrétien a compris que Jésus-Christ est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu incarnée, la volonté de Dieu personnifiée, il est libéré de toute crainte de passer à côté de sa volonté. Si vous demeurez en Christ et que vous comptez sur lui pour animer vos actions, pour vous conduire dans vos choix, vous pouvez avancer en étant rempli, non pas de crainte, mais de foi. Quand Jésus-Christ manifeste sa vie à travers nous, frères et sœurs, il est presque impossible. Il est presque impossible de s'égarer hors de la volonté de Dieu. Cela voudrait dire que Jésus s'est égaré, mais Jésus ne peut jamais s'égarer quand il manifeste sa vie à travers nous. Ne faisons jamais les confessions du genre « Vous savez que Satan est très doué pour tromper les hommes. » Alors, je ne veux pas me laisser tromper. Priez Dieu pour moi afin que je me garde de faire une erreur. Vous voyez, de tels propos, bien que sincères, vous savez que Satan est très doué pour tromper les hommes. De tels propos, bien que sincères, mais sont presque un culte, mais un culte voué, rendu à Satan. C'est faire honneur à l'ennemi, alors qu'il ne le mérite pas. Si les chrétiens avaient autant de foi dans la capacité du Saint-Esprit à nous conduire, tel que ceux de l'Église dans le church venaient de faire l'expérience sur le chemin de la volonté de Dieu, que beaucoup en ont dans la capacité, malheureusement, de Satan à nous détourner, mais les exploits seront énormes dans l'Église. Énorme. Dans sa grâce, frères et sœurs, Dieu nous guide en toute douceur et nous fait pénétrer dans ses desseins pour notre vie. Et soyez-en rassurés que même l'enfer tout entier ne pourra jamais s'y opposer. Jamais. Dans la Bible, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a su bien mieux l'exprimer, en tout cas dans la confession qu'il a faite dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 35. Je cite, dit-il, « Dieu agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux d'un côté et avec les habitants de la terre de l'autre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, mais qui es-tu ? Personne. Personne. En effet, Dieu fait ce qu'il veut. Si la possibilité de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu dépendait de nos forces, frères et sœurs, de nos capacités personnelles, nous n'aurions jamais aucune chance de l'accomplir. Jamais. Mais cela ne dépend pas de nous. Jésus mènera tous les combats C'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui mènera tous les combats pour garantir que nous accomplissons la volonté de Dieu, son Père, qui est aussi notre Père. L'apôtre Paul, par plusieurs fois, a reçu des visions et il entendait Dieu lui parler de façon audible. Enfin, il en a entendu au moins une fois. Et pourtant, jamais il n'a cherché à vivre telles expériences. Il comptait uniquement sur le Saint-Esprit qui était en lui pour accomplir la volonté de Dieu. Il faisait confiance à ses pensées, mais déclarant dans une de ses lettres, « Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il ne se tourmentait pas, Paul, en se demandant comment connaître la volonté de Dieu. Il la faisait tout simplement. Il avait l'assurance que ses pensées étaient en réalité les pensées de Christ qui habitaient en lui. Alors, voici, pour terminer, une illustration sur la façon dont Dieu souhaite accomplir sa volonté en nous. Pour pouvoir atteindre une destination dont on ne connaît pas le chemin, en tout cas, on peut s'y prendre de deux manières différentes. Nous pouvons demander des indications à un ami qui connaît le lieu de notre destination, mais parce qu'il a été déjà là-bas. Cet ami pourra même nous dessiner un plan pour nous expliquer clairement comment atteindre la destination. Cette méthode peut marcher, évidemment, mais à condition que nous sachions effectivement lire le plan. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec les plans, mais voilà. Mais il y a une autre méthode qui nous garantirait, en tout cas à coup sûr, d'arriver à bon port. Au lieu de se faire dessiner un plan, on pourrait demander à cet ami de venir avec nous en voiture et de nous diriger, pourquoi pas en roulant ou bien carrément, de lui céder le volant. Ainsi, cet ami deviendrait quoi pour nous ? Il deviendrait lui-même un plan pour nous. D'où celui qui a une relation intime avec Jésus par le Saint-Esprit connaîtra la volonté de Dieu sans avoir trop de mal à la trouver. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus est avec lui, dit l'apôtre Paul, un seul esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va dominer sur l'esprit de l'homme. Et donc la direction sera celle qui va donner l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel, mon Dieu, mon Père, Papa, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole entendue ce matin au sujet de comment connaître la volonté de Dieu. Nous avons appris que la volonté de Dieu, en réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous devons simplement, avec l'aide du Saint-Esprit, cultiver notre intimité avec lui si nous voulons connaître et accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, Seigneur, en quelque sorte, pour l'avenir de l'Église, et même pour l'avenir de l'Évangile, et même pour l'avenir, le triomphe même de tes desseins, de tes plans dans nos vies, et aussi dans l'intérêt, justement, de nos propres vies, Seigneur, nous offrons à toi. Nous nous offrons à toi sans condition. Nous nous abandonnons sans réserve entre tes saintes et divines mains. Fais de nous, Seigneur, ce que tu désires faire de nos vies. Père éternel, c'est avec joie. C'est avec joie que nous nous offrons à toi et que nous sommes prêts à te permettre justement d'accomplir ta volonté en nous. Ceci pour la gloire, pour la seule gloire de Jésus-Christ, lui qui est béni, qui est glorifié pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, le groupe de louanges va nous interpréter un chant qui va vraiment être pour nous comme une confession de foi, une prière suite à l'écoute de ce message.